Alors, je suis vraiment très, très contente d'être avec vous ce matin. J'ai l'impression que dans la louange, comme dans les prières, il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites. Et je me dis, mais Colette, qu'est-ce que tu vas rajouter à tout ça? Il y a tellement de belles choses qui ont été dites ce matin. Mais quand même, voilà, je suis partie. Et donc, pour poser le décor de ce message aujourd'hui, on va évoquer différents passages dans Exode 2 et 3 et on fait un petit retour quelques milliers d'années en arrière et on part à la rencontre de Moïse au buisson ardent, là où il rencontre l'Éternel pour la première fois. Alors Moïse a été sauvé des eaux, de justesse, il a été élevé par la fille du Pharaon, vrai miracle. Puis, prise de conscience, il se dit, je suis quand même un Hébreu. Donc, il va faire le choix de prendre parti pour les Hébreux qui étaient en esclavage. Schling, on le met à l'index et on lui dit, mais de quoi tu te mêles? Voilà. Et là, il va tuer un Égyptien et il va devoir fuir. Il nous arrive à nous aussi d'avoir la tentation de fuir, comme Moïse. Je crois qu'il peut nous arriver d'avoir cette tentation de fuir quand c'est trop difficile. Et après, il va se passer un long moment, Moïse va fuir, il va se retrouver assez loin. Et puis, il va trouver une femme, et puis il va trouver un beau-père, et ce beau-père va avoir également un bon troupeau. Et donc, Moïse va être un berger de troupeau pour Jéthro. Et là, d'un seul coup, il se retrouve dans cette montagne avec ce buisson ardent qui ne se consume pas, et il s'approche. Hein. Curieux, Moïse, comme nous aussi. Et là, Dieu lui dit, il entend une voix qui lui dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai vu la misère de mon peuple. » Et Dieu nous dit encore aussi, parfois aujourd'hui, « J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs. Et maintenant, je t'envoie. » C'est encore ce qu'il nous dit aujourd'hui. Et cette déclaration, malheureusement, de Dieu, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça n'a pas l'air d'être une carte de visite suffisante pour Moïse. Il lui en faut plus pour partir. Et donc, Dieu va surtout aussi lui dire, tu sais, tu vas parler au Pharaon, mais il ne t'écoutera pas, car j'ai endurci son cœur. Vous connaissez la suite, hein, les plaies d'Égypte. Robert en a parlé tout à l'heure dans sa prière. Les 40 années d'errance du peuple juif et puis cette passée de la mer Rouge. Il va y avoir la désobéissance du peuple, le veau d'or. Puis Dieu donne les tables de la loi. L'entrée du pays promis, non pas par Moïse, mais par un disciple, Josué. Mais si on revient à ce tout début, on voit que Moïse va s'insurger en disant « Mais si on me demande qui t'a parlé, que dirais-je ?» Et à juste titre, Moïse croit que les responsables du peuple d'Israël, assujettis aux Égyptiens depuis des années et des années, vont le prendre pour un fou. Et donc Dieu va répondre à Moïse de manière encore plus énigmatique. Et on trouve selon les versions dans la Bible en français courant, Dieu dit « Je suis celui qui est ». Et plus loin, il va dire « Je suis m'a envoyé vers vous ». Donc « Je suis » en lui-même représente la personne de Dieu. Dieu s'inscrit donc dans le présent du peuple qu'il a élu pour le faire entrer dans le pays promis. Je suis. Dans la Torah, on va trouver « Je suis qui je serai ». Et là, on voit Dieu qui fait marche avec le peuple. Le futur m'appartient, dit Dieu. Moi, je ferai ce que je veux. Mais toi, Moïse, mets-toi en route. Toi, Moïse, ta responsabilité, c'est de te mettre en route. Moi, je fais ce que je veux. Et dans la Thomson, on dit « Je suis qui je suis » et toc. Et il ajoute « C'est ainsi que tu répondras aux Israélites. Celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » C'est un peu comme si Moïse Dieu disait à Moïse « Pour vous, jusqu'à présent, j'ai été le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Donc j'ai été le Dieu de vos pères. » Et j'ai été, entre guillemets, quelqu'un de très lointain. Vous avez besoin de réaliser que je suis ce Dieu proche. Je suis ce Dieu qui s'incarne. Voilà. Donc, comme Moïse, moi aussi, ça m'est arrivé et ça m'arrive d'avoir du mal à quitter mes sécurités. Le troupeau de Jéthro. Et c'est sécurisant, un troupeau, hein. Ça donne de la vie, ça donne de l'espérance. C'est dur de quitter sa femme, de quitter tout ça. Et Moïse l'a fait. Après, je pense qu'il a emmené sa femme dans la conquête du pays, mais au début, c'était comme pour les disciples, hein, c'était pas facile. C'est seul qui devait se mettre en route pour aller voir le pharaon, pour, voilà. Et il semble, malheureusement, qu'au fil des siècles, dans la parole de Dieu, on va voir beaucoup d'envoyés de Dieu, des prophètes, des grands et des petits. On va voir des hommes ordinaires que Dieu a tirés de derrière le troupeau, Moïse, David, etc. On va voir des juges, comme Samuel, d'autres. On va voir des rois, tels que Saül, David, Salomon. Mais aucun d'entre eux n'aura pu faire aboutir entièrement le plan de « Je suis ». Aucun d'entre eux. Ils étaient des envoyés, mais ils n'étaient pas « Je suis ». Alors, « Je suis » va prendre les grands moyens, ceux que nous connaissons, pour se révéler. Et son dessein parfait pour l'humanité, c'est ce qu'a dit un célèbre astronome, James Irwin, le plus grand des miracles, ce n'est pas que l'homme ait marché sur la lune, mais c'est que Dieu a choisi de marcher sur la terre. Et en Jésus incarné, Dieu je suis, on va voir que de son périple, de la crèche à la croix, et du tombeau vide à la gloire. Jésus est devenu je suis. Jésus s'est révélé de différentes manières comme le je suis de l'Éternel. Il a pu ainsi pleinement manifester la grâce, l'amour, la justice de Dieu pour l'humanité. Il s'est fait justice pour toute notre humanité perdue. Donc ce matin, j'aimerais voir comment Jésus, Fils de Dieu, s'est révélé comme le Je suis. Et pour ça, on va faire un petit voyage dans l'évangile de Jean. Et en particulier, on va essayer de voir sept Je suis que Jésus va dire. Et il y en a d'autres, hein. Je trouve que c'est intéressant de voir. Et je me suis posé la question... Si Jésus est le « Je suis » de Dieu, qu'est-ce que ça révèle en moi, « Je suis » ? Est-ce que le « Je suis » de Jésus va déterminer, va mettre en lumière les « Je suis » de Colette ? Qu'est-ce que je suis par rapport à tout cela ? Donc au chapitre 6 de l'évangile de Jean, verset 35, à la foule qui veut voir des miracles et qui en a déjà vu parce que c'est juste après une multiplication des pains où il y a eu 5000 hommes et peut-être des femmes et des enfants qui ont été nourris et rassasiés. Jésus dit, je suis le pain de vie. Je suis celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Je suis le pain de vie. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. Et plus loin, il ajoute, vraiment, je vous l'assure, celui qui croit a la vie éternelle, car je suis le pain qui donne la vie. Et dans ce passage en particulier, il y a une telle insistance de Jésus sur le fait que si on mange la chair du Fils de l'homme, on devient en nouveauté de vie. Et ça, voilà, c'est tellement surprenant et en même temps, il nous faut nous nourrir de Jésus. Alors moi, je me suis dit, si Jésus est le pain de vie, s'il est le pain qui donne la vie, j'ai besoin, moi, de me nourrir de ce pain. D'abord. Et ce pain, c'est la parole de Dieu. C'est la présence de Dieu dans mon cœur. C'est l'intimité. Et à chacun de nous, ce pain peut représenter, il faut le savoir, quelque chose de particulier. Et en même temps, je me suis dit, mais moi, par rapport à ce pain, qu'est-ce que je peux être ? Et j'ai noté Colette, distributeur de pain. Un peu comme l'a fait Christine tout à l'heure, mais aussi prendre conscience qu'on n'est pas la manne, on n'est pas le pain de vie. On n'est pas celui ou celle qui multiplions le pain. On ne peut pas. Mais on a la capacité vraiment de passer le pain, de distribuer le pain, de veiller à ce que rien ne se perde et de veiller à ce que chacun ait sa part. Et ça, c'est important. Donc, je suis, vous êtes, si vous le désirez, des distributeurs du pain de vie. Dans Jean 8, au verset 12, un peu plus tard, à des religieux qui refusent de l'écouter, Jésus leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Qu'est-ce que ça peut signifier pour nous aujourd'hui ? Jésus est lumière. Si je le suis, si je suis Jésus, je ne suis pas dans la ténèbre, mais j'ai la lumière de la vie. Alors, je vais vous expliquer un petit quelque chose. Théo Vanderville, qui est à l'initiative de la formation FERACPA, nous dit souvent, quand on allume une lampe, les ténèbres disparaissent aussitôt. Et pour lui, qui travaille depuis des années, il a été missionnaire en Thaïlande et il a rencontré beaucoup de prostituées, de gens très blessés et qui après blessés aussi, il a mis en place ce qu'on appelle le bain de lumière. Et ce bain de lumière, c'est un temps particulier pendant lequel, en silence, paisiblement, on demande à Jésus, lumière, de venir visiter les coins d'ombre de la vie de la personne abusée, d'y apporter sa grâce et sa paix. Et je me suis dit, mais Colette, si tu le peux, si tu le veux, tu peux être un porteur de cette lumière. Tu n'es pas la lumière, tu ne seras jamais la lumière. Tu peux toujours claquer des doigts, ça ne viendra pas. Mais tu peux être porteur de lumière. Et puis, le Seigneur nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Il va plus loin là, un peu plus loin, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Jésus, lumière, m'appelle à être lumière. Pas une lumière bling-bling avec des paillettes, avec des poursuites de lumière qui font des effets. Non. On voit ça hein, dans les grands shows, etc. Moi, je suis effrayée de voir tout ce qui est mis en, parfois dans. Je dis pas ce que fait Rémi. Hein, je l'ai vu hier faire des jeux de lumière. J'étais très très contente. Mais quand je vois le dernier cabaret du monde ou toutes ces choses là, où on voit des grands spots et puis on voit blablabla. Non, c'est pas ça. Oui, peut-être, mais. S'il a besoin de ça, oui. C'est possible. Hein? Notre monde a besoin de lumière. Notre monde, où il y a tellement de bling-bling, a besoin de lumière. A besoin d'avoir ces lumignons qui restent allumés, qui parfois fument un petit peu, qui sont un peu fragiles. Mais notre monde a besoin que nous soyons lumière. Et donc, nous sommes des porte-flambeaux, des porteurs de lumière. Alors, on continue dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, les versets 8 et 9. À des hommes qui s'interrogent pour savoir qui est Jésus, parce qu'il y en a hein, qui ont dû se poser des questions sur cet homme qui voyageait avec des disciples de plus en plus nombreux, qui faisait des miracles, etc. Jésus va leur répondre « Je suis la porte par où passent les brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi étaient des voleurs et des brigands. C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et sortira et il trouvera des pâturages. Il trouvera de l'herbe fraîche. » Jésus nous dit là clairement qu'il est la porte pour la vraie vie, pour la vie éternelle. Et peut-être qu'ici-bas, on n'a pas toujours les verts pâturages, on n'a pas toujours les chemins tout tracés, les choses toutes faciles, etc. Mais ce qui pour moi est important, c'est de me dire... Si Jésus, quand Jésus se définit comme la porte, moi, qui je suis, qui nous sommes, eh bien, je peux être malheureusement quelqu'un qui empêche une personne de s'approcher de Dieu. Je peux être un empêcheur d'entrer dans la vie éternelle. Ça peut arriver, il faut en avoir conscience. Par notre comportement répréhensible ou par mon silence, car quand je n'ose pas dire la bonne nouvelle, je peux être un empêcheur d'entrer dans la vie éternelle. Mais je peux aussi choisir d'être un portier, quelqu'un qui ouvre et qui ferme la porte pour que les brebis soient en sécurité. Pardon, j'ai un problème avec mes pages, avec mes mains, j'ai du mal à les ouvrir, voilà. Je ne suis pas la porte, je suis le portier. C'est important. Je suis pas une... Oui, on pourrait dire que je suis une portière, mais bon. Voilà. On va continuer, et puis Robert en a parlé tout à l'heure dans la prière, dans Jean 10 au verset 11. À ceux qui sont perdus et qui cherchent le chemin, Jésus va dire « Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » J'aime, moi j'aime beaucoup cette parabole du bon berger. Moi je me sens tellement bien en pensant à ce bon berger protecteur qui veille sur chacun de ses moutons, chacune des brebis de son cheptel, qui est capable de laisser les 99 pour celle qui est perdue. Et ça, c'est important pour les pasteurs, les bergers de nos églises. Parfois, ils ont besoin de laisser les 99 pour aller chercher la brebis égarée. Puis vous le savez bien, moi j'aime bien être le petit mouton sur les épaules de Jésus. Je vous l'ai déjà montré. Petit mouton qui fait pouette-pouette là-haut et qui dit « Ah, qu'est-ce que je suis contente ! » Je peux voir le loup arriver. Mais je suis en sécurité. Je sais que le bon berger avec sa houlette, si le loup arrive, il lui donne un coup et il l'envoie paître. Moi, je suis à l'abri sur les épaules du bon berger. Et on sait que dans ce 21e siècle, des loups, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup dans le monde. Et parfois, il y arrive qu'il y en ait aussi dans les églises. Et c'est important d'avoir cette sécurité, de pouvoir être ce mouton protégé par notre bon berger. Mais en même temps, je pense que parfois Dieu me demande, ou nous demande, d'être une brebis un peu plus ancienne, qui va prendre sous son aile le petit mouton. Et dans notre réunion de prière jeudi matin, on parlait de quelques personnes qui viennent de temps en temps à l'église, là, dernièrement, et on avait eu l'image de tuteurs. Il nous arrive de pouvoir être des tuteurs pour de jeunes pousses, pour des frères et sœurs tout jeunes dans la foi, pour pouvoir grandir droit. Ils ont besoin d'avoir ces tuteurs ou ces brebis qui les protègent. Et pour moi, l'image des grands frères dans les quartiers, c'était quelque chose de tellement beau. Ils devaient être là pour accompagner. Malheureusement, il y a des grands frères qui ont pris le rôle de, ouais, je dirais des loups dans certains domaines. C'est dommage. Si nous croyons à la réalisation de la vision 50, on aura de ces petits moutons blessés qui vont arriver et pour lesquels le Seigneur nous demandera d'être ses brebis, ses tuteurs. Et il attend notre oui, avec nos capacités, avec nos dons, avec aussi nos limites. Nous pourrons être ce que Dieu attend de nous. Un peu plus loin, dans Jean 11, au verset 25, au cours de son périple à pied sur la terre, il marche, il en a fait des kilomètres. Et puis Jésus entend que son ami Lazare est mort. Lazare est prêt de mourir, mais Jésus continue son périple. Et on a même l'impression qu'il a fait un détour, parce que quand il est arrivé, Lazare était mort depuis 4 jours. 4 jours. Et Marthe, la sœur de Lazare, et Marie un peu plus tard, toutes les deux vont dire à Jésus, « Mais Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. » Et on est parfois dans ces situations. « Seigneur, si tu avais été là, mon frère, mon père, mon ami, mon mari, ne serait pas mort. » Et elle ajoute, Marthe, « Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. » Waouh ! J'ai envie de dire là, waouh ! Quelle foi, Marthe ! Tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Alors Jésus dit, « Je suis la résurrection et la vie. » Celui qui place sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Crois-tu cela? Nous sommes là devant le grand mystère de la mort. Et en même temps, en tant que chrétien, quand on se trouve dans cette impuissance totale, on sait que Jésus peut tout. Et qu'il nous a acquis la vie éternelle. Et que cette vie éternelle, personne ne peut nous la ravir. Dans la situation présente, Jésus va ressusciter Lazare. Mais on sait bien que quelques années plus tard, Lazare va à nouveau mourir. Mais qu'il y a la vie éternelle. Et on est porteur de cette vie éternelle. Qu'est-ce que je peux faire, moi, avec cette proclamation de Jésus ? Je suis la résurrection et la vie. Dans notre monde qui vit à 100 à l'heure, où on veut avoir tout vu, tout vécu, où on tente de reculer le plus possible les barrières de l'impossible. On en arrive même à cloner les humains. Il y a des choses qui se mettent en place. On veut vaincre la mort. On veut aller plus loin, de plus en plus, pour faire donner quelques années de vie, etc. Et on passe à côté de cette promesse tellement importante, la vie éternelle. Donc moi, en tant que chrétienne, chacun de nous en tant que chrétien, on est ces transmetteurs d'espérance, la vie éternelle. Oui, il y a la mort. Oui, à un moment donné, il y a un temps d'arrêt, c'est fini. Mais ça passe, il y a quelque chose qui passe vers la vie éternelle. Et si on transmet cette espérance, les gens de notre monde auront envie de nous suivre, de suivre Jésus. Un peu plus loin, dans Jean 14, au verset 6, aux disciples qui sont réunis une des dernières fois autour de la table, Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Alors c'est tout un programme. « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et je ne vais pas m'étaler sur cette proclamation de Jésus parce qu'il me faudrait une demi-heure entière pour pouvoir vous dire un peu tout ça. Et beaucoup de pasteurs en ont parlé. Mais ce « Je suis de Dieu, chemin, vérité et vie » nous conduit au Père des Lumières. Et je pense qu'il y a quelque chose là à découvrir. Il y a beaucoup de chemins aujourd'hui. Il y a des grandes portes ouvertes. Il y a tellement de choses qui sont ouvertes aux gens de ce monde. La réussite, gagner de l'argent, être reconnu, et talala. Et on connaît tout ce que le monde essaie de nous. Satan, j'ai envie de dire, essaie de donner même aux enfants de Dieu pour les empêcher d'entrer pleinement dans ce chemin étroit, mais aussi ce chemin de vérité et de vie. Et pour terminer, j'aimerais partager cette parabole dans Jean 15, versets 5 suivants. À ses amis rassemblés qui accueillent ces dernières paroles, Jésus va dire « Je suis la vigne, je suis le cep de la vigne, vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là portera du fruit en abondance. » Et là aussi, j'aime cette parabole. Jésus est la vigne, son Père est le vigneron. Nous, nous sommes les sarments qui doivent porter du bon fruit. Vous avez certainement tous déjà vu en photo ou en réalité une vigne avec ses belles grappes. C'est magnifique. Ça donne envie de croquer dedans. Quand on est là, moi ça m'est arrivé, Christophe m'a dit « mais t'as pas le droit ». Je me suis arrêtée, puis sur le bord de la route, j'ai coupé une grappe. Et je trouvais ça tellement bon. C'était encore un peu acide parce que c'était pas encore tout à fait bon, mais c'était tellement chouette. Et donc, je peux être amenée à être ce sarment qui porte de belles grappes, mais je suis ni le cep, je ne suis pas le vigneron et je ne suis pas la grappe. Je suis le sarment. Et si on voit quelques mois plus tard la vigne, elle est complètement dénudée. Les sarments, ils ont été coupés. Et pour que le raisin soit le meilleur possible, il faut que la coupe soit sévère. J'ai vu ça hier sur Internet. Si on veut que le raisin soit possible, il faut que ce soit coupé court, 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 court. Et on est ces sarments qui ont besoin d'être coupés court. Et parfois on est ratiboisé par le Seigneur. Il coupe en nous ce qui n'est pas bon. Parce qu'il sait qu'il veut, il désire qu'on porte ce bon fruit. Donc simplement vous dire, pour faire un peu une gerbe de tout ce qu'on a entendu, Jésus nous dit, tu peux être, je peux être un distributeur du pain de vie. Je peux être un porte-flambeau de la lumière de mon Seigneur et Sauveur. Je peux être un portier qui ouvre la porte vers la vie éternelle par ma vie et mon témoignage. Je peux choisir d'être quelqu'un qui ouvre et qui ferme des portes pour que les brebis soient en sécurité. J'ai le droit d'être le petit mouton à l'abri sur les épaules du bon berger. Mais je peux être aussi la brebis qui prend soin. Je peux être un tuteur placé auprès de mes jeunes frères et sœurs dans la foi. J'ai la mission d'être un transmetteur d'espérance face à la vie et la mort, un ouvreur de portes vers la vie éternelle. Et je suis aussi un sarment, un entre-deux entre le pied de vigne et la grappe, un passeur de sève, un passeur de vie. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous rappelle un peu tout cela pendant la semaine et nous aide à avancer dans ce qu'il a prévu pour nous. Amen. Seigneur, c'est toi qui peux. C'est toi qui peux faire résonner en nous l'appel que tu as sur nos vies, comme le partageait tout à l'heure Christine avec Mère Teresa. Tu as un appel pour chacune de nos vies et tu veux nous mettre en marche. Certains d'entre nous, nous sommes en marche déjà depuis quelques années et nous avons besoin d'être restaurés pour aller plus loin. Pour d'autres, c'est la mise en route. Et je te bénis, Seigneur, pour toutes ces mises en route, pour tous ceux qui entendent ton appel et qui répondent. Merci Seigneur. Amen.